Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir le grand rabbin de France, Raïm Korsia, membre de l'Institut de France, qui vient nous parler de son ouvrage « Ma vie avec Edmond Flegg », paru chez Gallimard. Bonsoir Raïm Korsia.
Bonsoir.
C'est un plaisir et un honneur de vous recevoir pour une première fois dans cette émission et je vous remercie vivement d'avoir accepté cette invitation. Comme à l'accoutumée, on commence par quelques mots de présentation de notre invité et évidemment je dois dire que votre brillant parcours, reflet de votre attachement profond à votre singularité mosaïque autant qu'à votre appartenance à la nation française, retient toute notre attention. Alors vous êtes né un 27 septembre à Lyon, une date qui n'est pas n'importe quelle date puisque c'est celle de l'accession des Juifs de France à la citoyenneté française au moment de la Révolution française et peut-être que cette date marque votre parcours intellectuel qui se distingue à la fois par son sens des responsabilités et son engagement éthique et citoyen. Vous êtes une figure incontournable du judaïsme français. Dès l'âge de 17 ans, vous intégrez le séminaire israélite de France, guidé par la pensée du grand rabbin Emmanuel Shushna, qui marquera profondément votre trajectoire spirituelle et académique. Parallèlement à votre formation, vous exercez déjà les fonctions de rabbin au Mans, de ministre officiant à la synagogue de la rue Montevideo à Paris dans le 16e. Et en 1988, vous devenez rabbin de la communauté de Reims et le Graal. Le 22 juin 2014, vous êtes élu grand rabbin de France, une fonction inventée par Napoléon et un mandat que vous renouvelez le 6 juin 2021, confirmant ainsi la reconnaissance de votre itinéraire au service du judaïsme et de la nation.
Vous savez que le Graal, c'était Reims?
C'était Reims? Pourquoi?
Oui, parce que quand vous êtes rabbin d'une ville, vous êtes en charge de l'accompagnement de fidèles, d'hommes, de femmes, de jeunes, que vous accompagnez, avec lesquels vous partagez des joies, des douleurs, des souffrances, des espérances. Et je crois que... Bon, en main de France, je ne vais pas vous dire que ce n'est pas bien, c'est très bien. Mais ce n'est pas la même responsabilité d'accompagnement de personnes qui vous font confiance. Vous êtes au bar mitzvah, aux naissances, au mariage, au bat mitzvah, aux enterrements. Et vous êtes finalement dans l'intimité des familles. Et je suis parti de Reims quand je n'arrivais plus à prendre la distance nécessaire avec les familles, au point qu'il est arrivé, c'est ce qui m'a fait comprendre qu'il était temps que je bouge, au point qu'il est arrivé que ce soit la famille de quelqu'un qui était mort qui a dû me consoler. Je me suis dit, si moi je n'arrive plus à les consoler, mais que c'est eux qui me consolent, il est temps que je parte, je suis trop attaché à eux. Et ce qui m'a fait comprendre, d'ailleurs, à quel point c'était important que les rabbins aient des temps d'action dans une communauté et qu'on puisse organiser une forme de turnover. Il n'est pas bon que les rabbins restent ad vitam aeternam dans des communautés. D'ailleurs, c'était valable aussi pour Moïse, à qui Dieu a dit, c'est bon, 40 ans, stop. Voilà. Alors, je ne dis pas que la limite, c'est 40 ans. Je pense qu'il faut un peu plus tôt pour les rabbins. Mais vous voyez, le Graal, pour moi, c'était Reims. Et je crois que tous les rabbins vous confirmeront que, quel que soit leur poste ultérieur, leur premier poste, ou vraiment avec des responsabilités sur une, et avec une communauté, est un poste qui les marque. On se construit avec une communauté.
L'engagement aussi d'aumônier en chef du culte israélite des armées, c'est quand même un moment poignant aussi, dont vous en parlez encore souvent.
Parce que j'ai fait mon service national dans les armées, j'ai pas voulu être, comme le redit Kaplan, je n'ai pas voulu être un planqué. J'ai fait mon service national dans l'armée de l'air, j'ai une passion absolue pour l'armée de l'air. Et c'est vrai que quand après on m'a proposé d'être aumônier, j'ai dit oui. Et puis après, bon voilà, les aléas de la vie ont fait que j'ai dirigé l'aumônerie. Mais par exemple, j'ai dirigé l'aumônerie des armées, mais j'ai jamais oublié que j'étais aviateur. D'ailleurs, c'est étonnant parce que dans le livre de Flegg, dont on va peut-être parler vers la fin de l'émission, vous verrez que Raïm Korsia, aviateur, ancien aumônier en chef du culte d'Israël des armées. Je suis aviateur. Je me sens profondément aviateur dans cette façon de comprendre le monde comme des sommes de règles et des capacités à innover, à inventer, à s'adapter.
Alors, je vais continuer un petit peu ce parcours. Je sais que vous n'appréciez pas trop ça, mais pour nos auditrices et nos auditeurs, c'est bien de resituer. Donc, il y a aussi le parcours académique qui est brillant, diplômé d'un MBA de la Reims Management School.
Ah, vous obtenez... on dirait La vérité, si je mens là, diplômé de London
mais oui,
School
c'est
of
beau,
Polytechnic
il faut
School
le dire.
Of London.
Alors, DEA à l'école pratique
oui.
de haute études en Sorbonne. Vous soutenez une thèse de doctorat en histoire contemporaine à l'université de Poitiers, on va y revenir, consacrée à la figure du grand rabbin Jacob Kaplan. Vous êtes en 2017 dans un cursus pour un doctorat en sciences de gestion à l'université Paris-Saclay avec une thèse rédigée à l'école polytechnique sur le suicide dans les armées, gérer un non-dit, qui explore des questions humaines et institutionnel lié à l'éthique. Alors, vos écrits, nombreux, témoignent de votre regard attentif sur les enjeux éthiques, sociétaux et interreligieux. On n'en citera que quelques-uns. Être juif et français, Jacob Kaplan, le rabbin de la République, à corps et à toi, la cabale pour débutants, bioéthique, les enfants d'Abraham, réinventer les horreurs, les aurores, oh là là. Dernièrement, peut-être que c'est pour ça que je pensais à ça, fragment de mémoire, voyage à Auschwitz-Birkenau avec Adeline Baldacchino, que j'apprécie beaucoup. Un pont entre les morts et les vivants, 80
qui,
années.
Qui a écrit un livre incroyable sur l'homme qui disait non. Et c'est un livre sur cet homme qui, dans une photo célèbre...
Et le seul à ne pas faire
le salut
le
nazi.
Salut nazi.
Ouais, c'est le 13 juillet 1936 sur le port d'Hambourg, quand les nazis inaugurent le lancement d'un bateau qui s'appelle le Horst Wessel, il y a un homme qui croise les bras, qui refuse de faire le salut nazi. Elle est allée à Hambourg plus d'un mois, un mois et demi, pour essayer de trouver qui était cet homme. Et elle découvre l'histoire de M. August Landmesser, qui travaille avec ses amis, probablement nazi comme tout le monde. Et à un moment, le parti nazi lui dit « Tu dois virer ta femme, Irma, qui est juive. » Il leur dit « Mais j'aime ma femme, je la garde. » »« Mais non, elle est juive, tu la dégages. » Il dit non, il s'obstine. Il ne peut pas accepter ça et il arrive à se défaire de l'emprise du parti uniquement par amour pour sa femme. Finalement, il est envoyé sur le front de l'Est, il meurt, elle est déportée, elle meurt. Leurs filles sont jetées littéralement par la fenêtre de petites qui miraculeusement survivent, blessées mais elles survivent, traversent la guerre. Et je trouve que cette fille a trouvé les mots à la fois pour parler de lui mais aussi pour légender, réfléchir à ce qu'est la Shoah, ce que sont ces voyages qu'on organise à Auschwitz et que j'organise. Et voilà pourquoi j'ai voulu faire ce livre avec elle.
C'est plus facile de parler d'Adeline que de votre parcours ?
Je trouve plus passionnant parce qu'aller trouver le nom du gars qui s'appelle August Landmesser, trouver sa vie, là où il était emprisonné, là où il a été envoyé au combat à l'Est, c'était beaucoup plus passionnant. Mon parcours, bon, une fois que j'ai fait ci, ça, voilà, c'est bien. Mais c'est pour ça que d'ailleurs que je me suis passionné pour la vie de Flegg, c'est que tout le monde connaît le centre Flegg. Flegg, mais vous dites Flegg, vous dites Flick, Flack, Flouk, vous dites ce que vous voulez, mais personne ne sait qui est Edmond Flegg. J'ai fait la même chose d'ailleurs avec... vous ne l'avez pas celui-là dans
la liste
de mes écrits. J'ai écrit, ou plutôt co-écrit, enfin c'est moi qui ai fait cette partie-là, un livre sur Nissim de Camondo. Nissim de Camondo, tout le monde connaît la maison Camondo, le musée Camondo, mais le musée Camondo, c'est le musée qu'a fait avec son appartement personnel, son hôtel particulier personnel, un homme qui s'appelait Moïse de Camondo, de la fameuse famille Camondo, qui a un fils, une fille. Le fils meurt le 5 septembre 1917 aux commandes d'un avion qui s'appelle un Farman 40, avec arrière un militaire, un mitrailleur qui s'appelle Lucien des Essarts. Et il meurt au-dessus de l'entrée, qui est à côté de Lunéville. Et cet homme perd son fils, sa fille est mariée au fils de Théodore Reynac qui s'appelle Léon Reynac. Donc lui, il meurt pour la France le 5 septembre 1917. Et sa fille est déportée avec son mari Léon Reynac et leurs deux enfants. Et donc elle meurt par la France. Un meurt pour la France, l'autre meurt par la France. Et lui, il était déjà mort, Moïse de Camondo. Et j'ai voulu rendre Nissim de Camondo à la fois à la nation, parce qu'on connaissait un peu les Camondo grâce au livre merveilleux de Pierre Assouline qui s'appelle Le Dernier des Camondo. Mais je voulais qu'on sache qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Nissim de Camondo, parce que Nissim, c'est un prénom, c'était le sien, et qu'on le rende aussi à la communauté des aviateurs. Donc j'avais demandé au chef d'état-major de l'armée de l'air de bien vouloir préfacer cet opuscule. Il l'a fait, c'était formidable. J'ai retrouvé d'ailleurs, de manière assez étonnante, un lien entre lui et le livre sur Kaplan. Je me suis toujours demandé pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que Kaplan succède à Georges Duhamel, à l'Académie des sciences morales et politiques ? Je me dis, c'est le grand homme de France, il y a quelque chose de spirituel, qu'est-ce qu'il a ? Quand Léon Reynac avec la fille Camondo et leurs deux enfants sont arrêtés. Georges Duhamel, qui est le président de la commission administrative centrale de l'Institut, en gros, la tête de direction de l'Institut, Georges Duhamel écrit à Brinon, qui est l'ambassadeur entre la France, enfin l'État de Vichy, et les nazis, en disant quand même, Léon Renac, c'est le fils de Théodore Renac, c'est la Villa Kyrios, c'est quand même quelque chose pour nous. Brinon, j'ai retrouvé la lettre, ça qui est terrible. 3 lignes, il envoie. Et j'ai retrouvé le document interne des nazis. Et j'ai retrouvé, et donc j'ai fait traduire, c'est en allemand, je l'ai fait traduire. Les nazis disent, 1. Georges Duhamel est connu pour ses options anti-allemandes. 2. Renac, il n'a rien fait lui, c'est son père qui a fait, on s'en fout. 3. On va temporiser, on ne répond pas, et on verra bien. Et donc c'est ce qu'ils font. Ils sont déportés, et ils meurent. Donc, cet homme, Georges Duhamel, est injuste. J'ai retrouvé ça dans mes recherches sur Camondo, ce qui a fait un lien avec Caplan.
Est-ce qu'on peut faire un autre lien avec les Camondos, c'est peu, qu'ils sont des descendants de la célèbre maison des Alatini de Salonique, et qu'ils sont des cousins éloignés avec la philosophe Eliane Amado Lévy-Valency, les blocs d'assaut de l'aviation, ou le musicien Darius Milo. Et beaucoup, malheureusement, dans cette famille, arrivent à des fins de cycle, et sans enfants et sans descendance. Alors.
Oui, parce que, par exemple, la mère de la génération actuelle des Dassault venait de Turquie, Nicole Dassault venait de Turquie. Mais la mère de Nissim et de Béatrice de Camondo est une fille kène d'Anvers. Une grande famille aussi, dont on a encore des descendants, puisqu'on a retrouvé, on a des descendants, non pas de la branche directe Camondo, mais par les sœurs de leur mère. Mais c'est, on n'imagine pas le poids institutionnel de cette famille qui a fait beaucoup dans ces grandes familles. Je crois qu'il y a Antebi qui avait fait un livre sur les Rothschild et sur l'ensemble de ces grands philanthropes qui ont construit aussi une façon. On ne peut pas penser le mobilier du XVIIIe siècle en France sans penser à ce qu'a conservé Moïse de Camondo, puisque cette particulier de la rue de Monceau est quand même assez incroyable.
Et des familles qui aident à définir la figure de l'israélite après l'accession à la citoyenneté, après l'émancipation, l'organisation du culte par Napoléon.
Et une passion absolue pour la France, puisque par Moïse, avant même la mort de sa fille, puisque sa fille est déportée, mais lui meurt avant, fait don de tout son hôtel particulier, au Louvre, c'est-à-dire maintenant aux arts décoratifs.
Alors, on va parler d'Edmond Fleg.
Bonne idée.
Votre actualité, Ma vie avec Edmond Fleg, qui vient de paraître chez Gallimard. Un mot, ça, je vais être très rapide aussi, pour dire qui était cet écrivain, ce poète, ce dramaturge français, malheureusement trop oublié, alors qu'il a été une figure majeure du renouveau intellectuel juif au XXe siècle. Après une jeunesse éloignée de la religion, il redécouvre le judaïsme au moment de l'affaire Dreyfus. Cet homme de lettres se consacre ensuite dans son œuvre à exprimer le génie du judaïsme et son message universel, notamment à travers son anthologie juive ou « Pourquoi je suis juif ?», engagé dans le dialogue interreligieux, précurseur du sionisme parmi les intellectuels juifs d'expression française, il laisse une empreinte durable sur la pensée juive moderne et l'histoire des idées contemporaines. En 2024, nous avons célébré le 150e anniversaire de sa naissance, qui a été marqué par une commémoration nationale à l'Institut de France. Alors cet essai narre pas seulement la biographie d'Edmond Fleg, mais votre parcours et de la manière dont il a croisé celui de cet écrivain. Est-ce que vous pouvez nous raconter la jeunesse de l'écriture de ce livre? Pourquoi votre vie avec Edmond Fleg?
En fait, le concepteur de la collection, s'appelle François Sureau, un de mes amis, et je parle d'Edmond Fleg, je lui offre d'ailleurs une pièce de théâtre d'Edmond Fleg qui s'appelle « La maison du bon Dieu ». Il la lit, il m'appelle au bout d'une semaine, il me dit « J'ai lu 4 livres d'Edmond Fleg, il est formidable, tu voudrais pas faire Ma vie avec Fleg ?» Je lui dis « D'accord, parce que c'est vrai que je lui avais expliqué qu'il m'avait quand même impressionné, notamment par ce livre et ce poème, « Pourquoi je suis juif ?» qui se trouve page 13 dans le livre. Pourquoi je suis juif ? Une grande question qu'on se pose tous. Pourquoi, comment je suis juif ? Lui nous l'explique avec des choses formidables. Je suis juif parce que le monde n'est pas créé, il m'appartient de le créer. Je suis juif parce que partout pleure une souffrance, crie une souffrance, le juif crie avec elle. Je suis juif parce que le destin d'Israël, au fond, il nous explique qu'on n'est pas par des données extérieures à nous, mais nous le sommes par une volonté de nous transformer, de transformer le monde. Et sa façon, notamment, d'avoir travaillé sur l'anthologie juive, c'est un concept incroyable. Qu'est-ce que le judaïsme ? Je vais vous dire, des textes. C'est beau comme réflexion. Qu'est-ce que le judaïsme ? Je cherche pas des grandes idées, des textes. En fait, pour le résumer dans la Torah, le Talmud fait ça, le Talmud fait déjà ça. Si on devait résumer la Torah, toute la Torah, en 11 citations, les voilà. En 3 citations, les voilà. En 5, 3, 1, et ainsi de suite.
C'est ce que disait un peu Emmanuel Lévinas. Être un philosophe, c'est connaître les textes des philosophes qui l'ont précédé.
Exactement. Au fond, qu'est-ce qu'être juif pour lui ? Avec son anthologie du judaïsme, c'est porter d'une manière ou d'une autre ces textes qui sont à la fois des textes de la Bible, de la Mishnah, du Talmud, certains de la Kabbale, il en met, mais des grands penseurs, mais des poètes, mais des fabulistes. Il a trouvé un fabuliste incroyable et qui, de mon sens, a forcément inspiré La Fontaine. Ce n'est pas possible d'avoir une telle concomitance dans les textes. Donc, ce fabuliste a inspiré La Fontaine.
Est-ce que vous vous reconnaissez des affinités, des points communs avec les engagements de Flegg ?
Il y en a beaucoup. L'armée, passion pour l'armée. Il est suisse, il est en Suisse. Et donc, quand arrive la Première Guerre mondiale, il s'engage dans la Légion étrangère.
Engagé volontaire dans la Légion étrangère, oui.
Jusqu'à sa naturalisation en 1921. J'ai retrouvé son dossier militaire, où vous avez des appréciations extraordinaires. Vous vous demandez même, est-ce que c'est possible que ce soit la même armée que celle qui a vilipendé, qui a rejeté dans un déni de fraternité militaire Dreyfus ? C'est la même. Et donc, ces appréciations sont bouleversantes.
Est-ce qu'on peut s'arrêter sur cet épisode ? Parce que, de la même manière que de Bernard Lazare ou d'André Spire dans leur parcours, au moment du cataclysme de l'affaire Dreyfus, ces gens de lettres renouent avec leur identité juive qu'ils avaient perdue. Et vous écrivez d'ailleurs que Flegg retrouve sa place, je vous cite, dans le destin d'Israël. Est-ce que, à ce titre, on peut les considérer comme les précurseurs des intellectuels juifs d'expression française, c'est-à-dire ceux qui s'engagent ?
N'oserais vous parler de ça.
Oui.
Vous qui avez fait un livre merveilleux sur les intellectuels, donc je ne vais sûrement pas vous dire qui fait partie de votre domaine d'action ou pas. C'est votre métier, et puis vous le faites tellement bien qu'il n'y a rien à dire.
Merci.
Mais évidemment, et je vais vous dire, il aurait pu basculer, comme beaucoup d'intellectuels juifs de cette époque, comme par exemple Bergson. On oublie Bergson, était aux portes de la conversion, et il dit, s'il n'y avait pas eu le malheur du destin d'Israël, et il n'est pas question que je me détache du destin d'Israël au moment où ça devient difficile de l'être, il se serait converti. Mais il ne le fait pas à cause de... du statut des Juifs, à cause de cet antisémitisme virulent, mais...
À l'encontre des Juifs étrangers, essentiellement.
Non,
c'est
des
ça.
Juifs français aussi.
Dans l'action de Bergson, c'est ce qu'il dit.
Oui, mais pour Flegg, c'est différent. Il a un copain qui s'appelle Moreau, un normal sup. Et il comprend, à un moment, il a une tentation du catholicisme. Il est abonné à l'Action française, par exemple. Et quand il se marie en 1907, j'ai retrouvé son acte de mariage, et qu'il a son premier garçon, il break de tout ça, il résilie son abonnement à l'Action française. Et au fond, vous avez raison, c'est le mouvement des intellectuels, et je suis heureux que vous ayez cité Spire, qu'on oublie terriblement. Et Spire est l'une de ses grandes références, avec Zangwill, qui est anglais, mais Spire, évidemment. Et avec, vous savez qui le met sur le chemin du judaïsme ? Charles Péguy.
Péguy aussi, tout à fait.
Charles Péguy, qui, dans le Cahier de la Quinzaine, publie Zangwill, au fond, le pousse par sa recherche spirituelle, personnelle, à chercher chez lui. Qu'est-ce qui est extraordinaire.
Un Dreyfusard de la première heure.
Oui, oui, Péguy, évidemment. Mais, donc oui, il fait partie des intellectuels, parce que, moi, je dirais avec mes mots à moi de Romain, à la manière d'un Avraham, le patriarche, il va retrouver intellectuellement un judaïsme qui le construit bien plus qu'il ne le croyait avant, et dont il va redécouvrir une grande partie des étincelles. Avec l'anthologie, parce que vous voyez, qui va, n'oubliez pas l'anthologie, il va l'augmenter au fur et à mesure du temps. Moi, j'ai travaillé sur une des dernières versions, dans laquelle il y avait, par exemple, l'existence, la création de l'État d'Israël. Mais la première édition, il n'y a pas, parce qu'on est bien en
1923.
Donc, on n'est pas sur ces textes. Et pourtant, il va retrouver Il va trouver des textes. Et notamment, dans la dernière version, il y a la copie de cette lettre incroyable de Pierre Masse, qu'on a parlé évidemment en 23, quand Pierre Masse écrit à Pétain pour lui dire, alors qu'il est à Drancy. Il est à Compiègne, à ce moment-là, je crois. Dois-je retirer ces galons à mon fils blessé à Saint-Denis, dois-je retirer sa légion d'honneur à mon neveu mort, etc. Et j'adore le dernier paragraphe. Et enfin, suis-je assuré de conserver la médaille de Sainte-Hélène acquise par mon grand-père avec... Oui, acquise par mon grand-père. C'est page 129, je crois.
Vous connaissez même les pages par cœur.
Oui.
Il y a un célèbre dicton yiddish qui a fait Flores donc dans le monde ashkénaze et qui a justifié la venue en France dans l'entre-deux-guerres de ces juifs, c'est heureux comme Dieu en France. Emmanuel Lévinas d'ailleurs est arrivé en France parce que son père considérait qu'un pays où on est capable de réhabiliter un capitaine juif injustement accusé est le pays où on doit être, et c'est pour ça qu'il choisit plutôt Strasbourg que Fribourg ou l'Allemagne quand il doit faire ses études de philosophie. Flegg, comme d'autres Israélites, a combattu pour la France, vous l'avez dit il y a un instant, au moment de la Première Guerre mondiale, alors même qu'il n'était pas encore français, il était suisse, il était patriote, attaché aux valeurs de la République. Est-ce que ça, c'est un modèle qui vous porte?
Je crois que dans toutes nos fibres, nous sommes français avec cette obsession de faire en sorte que la France soit fidèle à elle-même. On le voit bien, quand la France porte un idéal de fraternité, elle est formidable. Quand elle oublie son idéal, comme c'était le cas avec Vichy, comme c'était le cas, par exemple, avec Giraud en Algérie, quand le débarquement américain qui a lieu le 8 novembre 1942 fait en sorte que Giraud est en Algérie, les Américains, fous de joie de pouvoir mettre quelqu'un dans les pattes de De Gaulle, commencent à traiter avec Giraud. Giraud réabroge le décret Crémieux qui faisait des Juifs d'Algérie... le département d'Algérie, des Français. Donc, alors que les Juifs étaient certains qu'ils allaient pouvoir enfin s'engager pour la défense de la France, on leur dit, ben non, vous n'êtes pas citoyen français, puisqu'on va réabroger en mars 43, il abroge. Donc ça, c'est pas la France. Et d'ailleurs, il dégagera du jeu complètement quand il fait un voyage en Amérique. Et le 13 juillet 43, il répond dans une interview, tout n'est pas à rejeter dans la Révolution nationale. Bon, là, son compte est réglé. Il revient à l'écuie et De Gaulle l'emporte dans ce bras de fer. Et en octobre 43, il abrogera l'abrogation et globalement, on reprendra le statu quo ante. Mais vous voyez, quand la France n'est pas fidèle à ses idéaux, alors on est malheureux. Regardez, affaire Dreyfus, la République, c'est la France, mais c'est la version républicaine de la France. La République vacille, ben, les Juifs vacillent, c'est pas très marrant. La République chute complètement en 40, la situation des Juifs devient catastrophique.
Et puis cet entre-deux-guerres avec des affaires comme l'affaire Stavisky, ouais, ou même juste avant l'affaire Dreyfus, l'affaire de Panama, où il y avait des banquiers juifs impliqués, avec des entailles au pacte républicain de cette intégration qu'on pensait...
Ils n'étaient pas impliqués d'abord, on a voulu les impliquer. Et au fond, on a fait une affaire antisémite d'une affaire qui était purement commerciale. Le comportement de la société globalement envers la banquière Anneau, par exemple... est un scandale parce que, un, elle était une femme, ce qui n'était pas la mode à l'époque, deux, elle était juive, donc ça fait beaucoup en même temps. Mais oui, c'était une société traversée par cette pulsion antisémite qui se revendiquait, il ne faut pas oublier ça. Elle se revendiquait. À Alger ou à Oran, c'est la France. Les deux maires sont élus sur un programme dit programme antisémite. Le grand rabbin d'Alger, en 1905, je crois, a un attentat chez lui. Quatre, il a l'attentat, il s'appelle Avram Bloch, il a un attentat contre lui, antisémite contre lui, une bombe sur son palier. C'est pour ça qu'on le rapatrie en urgence à Lyon, il est grand rabbin de Lyon, et il mourra le 29 août 1914 à Tintru, dans les Vosges, en tendant un crucifix à un soldat catholique. Et on voit cet antisémitisme complètement normal. Quand vous lisez, par exemple, la biographie incroyable de Maître Garçon, cet avocat grand du barreau parisien, qui fut d'ailleurs, en 1953, l'avocat des enfants Finali. Vous voyez cet antisémitisme naturel, d'ambiance.
Oui, vous le disiez, il y avait même un parti antisémite, on a tous en tête cette affiche.
garçon qui est un bonhomme formidable, mais il est porteur de sentiments de suicide. Je me rappelle quand je me suis battu et que j'ai obtenu, grâce à Dieu, une rue Picard, du nom du colonel Picard, qui a sauvé...
L'affaire Dreyfus.
Dreyfus. Certains m'ont dit, mais c'est honteux, Picard était antisémite. Oui, était antisémite comme tout le monde, comme une grande partie de la société française à cette époque. Mais c'est d'autant plus méritant d'avoir voulu défendre la vérité. Et cet homme qui était par ailleurs le sujet d'une forme de haine atavique qu'il avait envers les Juifs, mais il a été capable de faire prévaloir la vérité sur son confort personnel, sur même ses idées personnelles, la vérité et la justice. C'est ce que dit la Bible, Tzedek, Tzedek, Tzedov. Voilà pourquoi, oui, connaissant la réalité des choses, on peut dire que certains sont plus merveilleux que d'autres. Mais...
Et Flagg en particulier, est-ce qu'on peut considérer qu'il était précurseur à un
de
moment
tout.
De tout.
De tout.
Par exemple, réfléchir au sens de l'histoire juive, il n'attend pas l'après-Shoah comme les grandes figures de l'école française de pensée juive pour le faire. Il le fait avant. Il va même en Israël au début des
33.
années 30 pour écrire un livre sur Jésus qu'il va dédier après à ses petits-fils à naître, malheureusement qu'ils naîtront pas.
Pardon.
La Palestine.
C'est pourquoi je suis juif qui dédie à mes petits-enfants qui viendront, qui ne sont pas encore nés.
La et Palestine le, aussi, parce que je...
Le drame, oui. C'est le livre en 48 qu'il dédie à mon petit-fils qui ne naîtra jamais. Au fond, c'est à nous qu'il dédie ce livre. Ses deux enfants sont morts en 40, le premier dans les combats de 40, et le deuxième juste avant, en fait, en se suicidant parce que la France refusait qu'il puisse s'engager parce qu'il était jugé inapte pour combattre. Il trouvait insupportable de ne pas défendre son pays. Donc un suicide, l'autre est mort pour la France. Il comprend qu'il n'aura plus de petit-fils ni de petite-fille. Et il dédie son livre de 48 qui s'appelle « Nous de l'espérance », tel titre merveilleux, à ses petits-enfants. Mais vous avez raison, au fond, il espère pouvoir transmettre quelque chose et il transmet à nous tous. Mais quand je dis qu'il est de tous les combats merveilleux, par exemple aujourd'hui, si les éclaireurs israélites de France ont ce qu'on appelle un minimum commun, c'est lui qui l'a défini. C'est lui. Aujourd'hui encore, oui. On vit sur ce qu'il a fait. Il s'est donc intéressé à la jeunesse, puisqu'il a été même plus tard président des éclaireurs israélites de France. Il s'est intéressé à la transmission, au texte, à ce qu'est le judaïsme. Il s'est intéressé évidemment au dialogue interreligieux. C'est avec lui que vont être déclinés les accords de Seelisberg de 1947 avec l'Église catholique, qui vont donner naissance à l'amitié judéo-chrétienne, dont les premières réunions se font un quai aux fleurs à son domicile. Et donc, il est vraiment au cœur de toutes les grandes transformations du judaïsme. Et je vais aller même plus loin, et là, c'est un parallèle extraordinaire avec Kaplan. Il est porteur de ce franco-judaïsme consubstantiel au judaïsme français, avec en plus, comme Kaplan seulement, le sionisme.
Alors, c'est la question que j'allais vous poser. Ce sionisme,
pas le cas de tout le monde à l'époque.
Oui, qui naît très tôt, bien avant le sionisme d'un André Neher ou d'un Léon Ashkenazi dit Manitou. Comment vous l'expliquez, ce sionisme même des années 30?
Moi, je vous dirais, c'est prophétique. Mm-hmm. Il comprend que... Et attention, ça ne minore en rien son attachement absolu à la France. D'ailleurs, oui, bien, il ne fait pas la LIA. Mm-hmm. Il est sioniste parce qu'il dit il faut qu'il y ait une idée sioniste, il faut qu'il y ait... à la fois un lien spirituel avec la terre d'Israël, où nos prières sont dirigées vers Jérusalem, mais il faut également qu'il y ait une réalité géopolitique qui s'appelle l'État d'Israël, de sorte d'avoir une forme d'équilibre dans le monde. C'est une question d'équilibre dans le monde, parce que c'est la promesse de Dieu, et qu'il croit en cette promesse pour transformer le monde. Donc alors... Israël, et d'ailleurs on le voit encore aujourd'hui, avec par exemple les ultras chrétiens, ultra, parce qu'ils sont vraiment très ultra. Aux États-Unis, par exemple, pour eux, l'existence d'État d'Israël, c'est la démonstration de l'arrivée des temps messianiques. Ce qu'on appellerait en hébreu, avec notre formulation, it patruta de mesherta, l'ouverture des temps messianiques. Donc, pour lui, c'est clair que ce niveau de spirituel rejoint un niveau politique, et donc il a un sionisme qui est un combat pour expliquer qu'il n'y a pas au fond, ce qu'on dira à partir de 67, de double allégeance, et qu'on peut parfaitement être sioniste et parfaitement être totalement français.
Et sionisme de diaspora. Alors, comparaison n'est jamais raison, mais il y a aujourd'hui, face aux difficultés que rencontrent les Juifs de France, cette nouvelle tentation qui revient de partir en Israël. En tant que grand rabbin de France, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces Français de confession juive qui sont tentés par ce départ?
Je les comprends. Parfois, les raisons sont évidentes. Il peut y avoir des raisons personnelles, des raisons spirituelles, des raisons liées à la famille, et puis des raisons de crainte. Il y a des situations que certains de nos coreligionnaires, que certains juifs, vivent en France qui sont insupportables, inacceptables. Et l'enjeu, c'est ce que nous faisons avec le président du Conseil central, Maître Elie Korchia, et les institutions juives en France, en sorte que le gouvernement défende autant que possible, avec de moyens humains, notamment des communautés juives, les écoles, les centres communautaires, la vie juive. Parce que il faut défendre ça pour qu'une alia soit un choix positif et pas exclusivement un choix négatif. Mais je vous dis que oui, il y a des situations inadmissibles dans certains lieux en France où il n'est plus possible d'être lorsqu'on est juif. Et le simple fait que ce soit plus possible pour un juif, moi je vous dis, c'est une très mauvaise nouvelle pour nos concitoyens non-juifs. Parce que très vite, eux aussi ne peuvent plus habiter là où nous avons été mineurs. Je me rappelle en 2002, le ministre de l'Éducation, Luc Ferry, me disait, à part Laurency et Pavillon-sous-Bois, il n'y a plus un juif dans l'école publique du 93. Et on voit bien comment les juifs se trouvent maintenant. Un tiers de nos enfants sont dans les écoles publiques, mais pas partout uniformément en France. Un autre tiers dans les écoles juives et un autre tiers dans les écoles privées, en général catholiques.
Et encore au Pavillon-sous-Bois, ça a changé. Est-ce que la situation vous inquiète de cette...
La situation, elle doit être toujours vérifiée. On a eu ce matin une réunion avec Maître Elie Korchia, le président du CRIF, dans une audition au Sénat sur l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur. Vous croyez que c'est normal pour nos enfants d'aller étudier avec la menace d'avoir un Haï qui dépasse ou un Magen David qui dépasse et qu'on les vilipende, qu'on leur interdise de participer à telle ou telle conférence, qu'on leur interdise de prendre des tracts comme c'est arrivé à ma propre fille? Donc, je vois bien la difficulté, sans vous parler de la grande question des examens le jour de fête, Shabbat. Le monde universitaire est perclus de deux gros problèmes. D'abord, un problème idéologique de faire de la laïcité, non pas la liberté de pratique religieuse, mais de l'athéisme. On bannit la chose religieuse. Et la deuxième, cette obsession, disons-le clairement, pardon, vous êtes du monde universitaire, mais vous en prenez pour votre grade, mais
aussi,
c'est pas grave.
Oui.
Vous-même, vous êtes confronté à cela, je le sais. Mmh. Cet antisémitisme, il n'y a pas d'autre mot, que certains habillent par une forme encore de pudeur qui leur reste, et encore, si tant est que ce soit de la pudeur, d'antisionisme, au fond, c'est la même chose. Et donc, il faut imaginer la situation, telle ou telle université, et de la même façon que je vous ai dit qu'il y a des endroits où ce n'est pas possible, je vous maintiens qu'il y a une université en France où c'est très compliqué, quand on est juif, d'être étudiant, voire...
Enseignant. Oui, où les lois de la laïcité ne sont plus respectées. Elles sont totalement bafouées, la neutralité universitaire non plus, elle n'existe plus. Et c'est vraiment inquiétant pour la formation des générations futures.
Exactement.
Qu'est-ce qu'on peut faire?
Il faut lutter. C'est pour ça qu'on est en train de travailler avec la commission sénatoriale sur un projet de loi qui sera débattu le 20 février prochain au Sénat. Il passera ensuite à l'Assemblée, on verra comment ça sera adapté. Il faut donner des moyens juridiques aux établissements d'enseignement supérieur pour lutter vraiment contre l'antisémitisme, mais pas en faire juste une question d'une sous-vague direction de je ne sais pas quoi d'université. Au fond, Flegg nous a donné les éléments. Il a dit, je pourrais imaginer, c'est vrai, son moment, si vous voulez, c'est le moment où les Juifs, comme beaucoup, se disent, soyons moins juifs pour être plus français. Et lui, il leur dit, écoutez, ça ne marche pas, soyez donc pleinement juifs pour être parfaitement français.
Et puis gardons...
Donc c'est un message pour nous aujourd'hui.
Oui. Et gardons l'espérance.
C'est son absolue vérité. Il dit « J'espère l'espérance ».
Alors justement, s'il y avait un message à garder...
L'espérance.
Mais pas seulement de Flegg, c'est de votre livre sur ma vie avec mon Flegg. On garderait l'espérance? Il faut toujours espérer, même si on est très inquiet.
Vous avez le choix simple. Soit le choix de la mélancolie portée par Nerval. Mmh. La mélancolie, cette maladie qui permet de voir le monde tel qu'il est. Où est le monde tel qu'il est? Vous vous dites « Bon, moi, c'est cuit ». Globalement, vous êtes devant la mer Rouge et vous vous dites « C'est cuit, c'est fini ». Soit vous intégrez dans ces données du monde qui sont qu'elles sont, ces données sont là, c'est une réalité objective. Vous intégrez l'espérance et vous vous dites, oui, il y a des moyens que la mer s'ouvre, font que on domine la situation, on ne se laisse pas écraser par la situation. Je crois que le monde juif a toujours porté cela en lui. La grandeur de Fleck, c'est de l'avoir retrouvé, comme Avraham, par sa raison et par sa foi, en Dieu et en l'homme.
Il y a une habitude pour terminer cette émission, une question classique que je pose à tous mes invités. Si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices, aux auditeurs de Radio Shalom de lire votre livre, qu'est-ce que vous leur diriez ?
Une phrase, et je le dis maintenant parce que vous connaissant un petit peu, je sais que vous attendez de moi que je cite à un moment Elie Wiesel dans une de ses phrases cultes, mais qui est une de mes préférées, donc je le fais là avec plaisir. Elie Wiesel a dit « L'inverse de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence. » Eh bien, je vous dirais qu'Edmond Fleck n'a été indifférent en aucune manière à tout le destin et du peuple juif et de la France.
Merci infiniment d'avoir abordé, évoqué avec nous votre actualité, l'une de vos actualités. Hein, c'est la parution de « Ma vie avec Edmond Fleck » chez Gallimard, un livre que je recommande non seulement parce qu'il permet de faire connaître la destinée d'un intellectuel juif méconnu, Edmond Fleck, mais parce qu'il est très bien écrit, qu'on passe un bon moment et qu'on apprend un certain nombre de choses et des éléments qui peuvent nous servir dans notre réflexion quotidienne. Merci beaucoup, Monsieur le Grand Rabbin de France, membre de l'Institut.
Un plaisir.